faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je drutise, tu drutises, vous drutisez depuis hier soir, ça tombe dru. Vive la victoire en chantant, même une Marseillaise tronquée, comme ça s'est passé sur le podium, et que ça se passe comme ça pour tous les pays d'ailleurs. En tout cas, je suis fier de dru, tu es fier de dru, nous sommes fiers de dru. Et il y a de quoi, c'était beau, c'était fort, c'était mérité.
Et c'était surtout l'inimitable Roger Gicquel en 1976 qui annonçait au journal télévisé, à sa manière hein, bien sûr, que Guy Drut avait décroché la médaille d'or sur le 110 mètres haies aux Jeux Olympiques de Montréal. Une époque où le sport français était un peu en jachère, il y avait bien sûr les Verts à Saint-Etienne, mais pour le reste, même tronqué, la Marseillaise ne retentissait pas souvent sur les podiums. C'est ainsi que Guy Drut a conquis une place à part dans le cœur des Français. Et 40 ans plus tard, aussi parce qu'il fut ensuite ministre, personne ne l'a oublié. Oui, Guy Drut, c'est l'histoire d'un destin français. Aujourd'hui, il a 68 ans, il a bonne mine, il a le regard décidé, un brin autoritaire parfois. Guy Drut, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va la vie?
Très bien.
Vous avez l'air en tout cas en pleine forme.
Ah oui, pour le moment ça va.
Eh bien ça me fait très plaisir.
Il n'y a aucun problème.
Eh bien c'est parfait. À vos côtés ce soir, une ancienne championne de natation. Elle était aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Elle est là parce qu'elle a été impactée, mais dans le bon sens du terme, par vos performances sportives. Elle a grandi sur cette victoire de 76 à Montréal. Sophie Camoun, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez la bienvenue. Et enfin, autour de la table ce soir également, un journaliste de l'équipe, spécialiste entre autres de l'athlétisme, Marc Montouillac, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Et puis juste avant le journal de 19h, bien sûr, le Give Me Five, signé Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Au programme ce soir,
le rugby en deuil, des footballeuses en colère. Et puis, l'hymne albanais.
Évidemment, l'hymne albanais, pardon. À tout à l'heure, Joy. Vous êtes bien sur France Inter et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, on commence ce soir avec Bernard Pivot, le président de l'Académie Goncourt, qui a dévoilé mardi dernier la première liste des romans sélectionnés pour ce cru 2019. La saison des prix littéraires est donc lancée. Et on sait d'éternité que Pivot a toujours aimé le football. Mais, d'où ça lui vient? Eh bien, c'est une affaire de pensionnat à la mi-temps du XXe siècle. S'il te plaît, raconte-moi le sport, Pivot.
Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.
J'étais pensionnaire, je n'étais pas un bon élève, et pourtant j'ai été un pensionnaire heureux. Ça peut paraître bizarre. Et pourquoi? À cause du sport, tout simplement. Parce que j'ai découvert les joies du sport, j'ai découvert les joies de la compétition, et le football, mais pas seulement le football, le basketball, le tennis de table, j'étais un très bon joueur de tennis de table. Figurez-vous que j'aimais tellement jouer au football que le week-end, au lieu de descendre chez mes parents, parce que je dis descendre parce que l'école était au sommet de la colline de la Croix-Rousse, au lieu de descendre chez mes parents, je préférais rester au pensionnat pour pouvoir jouer au football le samedi et le dimanche avec mes copains. Alors, j'étais dans un pensionnat qui s'appelait le pensionnat Saint-Louis, qui avait une particularité, c'est effectivement de développer le goût du football. N'oubliez pas que c'était tout de suite après la guerre. Il n'y avait pas beaucoup de collèges en France où l'on enseignait le sport avec cette disponibilité de l'élève, cette disponibilité des professeurs. Mais nous avons raflé absolument toutes les médailles, tous les prix. Et j'étais pas un bon joueur, c'est ça qui est extraordinaire. J'étais pas un très bon joueur de football, mais j'étais un joueur appliqué, j'étais un joueur volontaire, j'étais même hargneux sur le terrain. Je voulais réussir dans le football parce que c'était ma passion.
Quelle était la place que vous aviez dans le jeu?
Je jouais milieu de terrain, je jouais interdroit.
C'est important.
Oui, mais tous les postes sont importants au football. Donc vraiment, et le sport, et je lui en sais gré aujourd'hui, le sport m'a donné le goût de la compétition, m'a donné le goût de l'effort, m'a donné le goût du travail en commun. C'est ça que m'a donné le football en particulier et le sport en général. Je vais vous raconter une joie que m'a donné le football. Le jeudi, bon, on était pensionnaire, mais le jeudi, on s'échappait du pensionnat pour aller à l'extérieur, pour aller jouer contre d'autres équipes. Parfois même, nous prenions le tramway, parfois même, nous allions, même il nous est arrivé d'aller en car à 10 ou 20 kilomètres de Lyon. Et quand nous revenions au pensionnat et que les portes se refermaient sur nous, eh bien, si nous avions gagné, nous étions les rois. Nous étions les rois. Et le lendemain, le professeur de mathématiques, s'il savait que j'avais marqué un but, et s'il voyait bien que je ne connaissais pas ma leçon, eh bien...
Il était plus indulgent.
Il était très indulgent. Oui. Parce que les professeurs eux-mêmes avaient le goût du sport.
Mais si vous aviez été premier en composition en classe, vous auriez été tout de même aussi heureux d'avoir gagné un match de football.
Je ne pouvais pas être premier alors que je pouvais parfois marquer un but. Oui. C'est ça qui est important.
First of all, finding words to express my feelings is almost impossible to do. When it comes down to talking about you, you're more valuable than gold, girl, than anything else in this world. And I'm so proud to say you're my girl. You're what's needed in my life, girl. You're what's needed in my life, girl. You're what's needed. Not only just me, so many people that have met you, I'm sure they will agree. You're so considerate of others, so heavenly. You're everything, you're everything you need. So what's needed? Could I go home if I wake up and find you gone? I don't know what I'll do, but I'm so happy at this moment I got you. And I'm gonna tell you one more time.
Cette voix, c'est celle de Lee Fields. Le titre, You're What's Needed in My Life, tout un programme. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Connaissez-vous Oigny, dans le Pas-de-Calais, tout près de Lens? Au dernier recensement, on y comptait 9692 âmes. C'est là, à Oigny, dans cette petite ville du Nord, que sont nées deux figures tutélaires de l'athlétisme français. C'est rare. C'est sans doute unique. Le premier y a vu le jour en 1936. Il fut vice-champion olympique du 1500 mètres à Rome en 1960. Il s'appelle Michel Jazzy et il a imprégné les mémoires au début des années 60. Le second, né à Oigny lui aussi donc, le 6 décembre 1950, fut champion olympique du 110 mètres haies à Montréal en 1976. Il est avec nous ce soir et voici sa toute première apparition sur les antennes de Radio France. Nous sommes le 29 décembre 1968.
Ce garçon qui pénètre dans le lycée classique et moderne de Carvin, c'est Guy Dru, de l'Étoile d'Oigny. Il s'est distingué sur les stades en battant le record de France du décathlon junior. Il avait à ce moment-là amélioré deux records nationaux, 110 mètres haies et saut à la perche.
Guy Dru, en quelle classe êtes-vous?
Je suis en première A, c'est littéraire, et je prépare pour la prochaine année scolaire le bac, ex-bac philo, plus exactement.
Vous faites encore de la philo?
Non, c'est-à-dire que j'en fais pas encore, je vais commencer l'année prochaine. Ici, on fait beaucoup de français, une matière littéraire, histoire, géographie, langue.
Ça marche, les études?
Oui, ça va, en général, ça va. Peut-être pas aussi bien que le sport, mais ça va, je me plains pas, quoi.
Vous vous battez, comme sur les stades?
Peut-être pas autant, non, mais enfin, c'est par à-coup, ça dépend des travails qu'on a, si c'est important ou non. Disons que je sais me donner, quoi.
Quelle est la matière que vous préférez dans vos études?
Là, le sport, et puis après, j'aime bien le français, les lettres, et puis les sciences naturelles.
Quel est l'auteur que vous préférez?
Il y en a plusieurs. Enfin, pour l'instant, c'est Rousseau. Je suis en train de l'étudier, justement, et je trouve que c'est vraiment un homme qui a su marquer par sa personnalité son siècle, premièrement, et moi personnellement, il m'épate vraiment.
Guy Druth, vous étiez jeune lycéen, 18 oui. ans, oui. au seuil d'une grande carrière d'un grand champion.
17
ans, exactement.
Oui, parce que je suis né vraiment en fin d'année.
Exactement. Pour commencer, est-ce que Rousseau continue de vous accompagner aujourd'hui? Est-ce qu'il ne vous épate toujours autant?
Côté éducation. C'est ça qui m'a toujours passionné, parce que c'est... D'ailleurs, je suis devenu après... professeur d'éducation physique, là
la
où il y a aussi la transmission, voilà, la transmission du savoir, c'est quelque chose d'important. Et Jean-Claude Killy a écrit récemment deux superbes bouquins, chacun, en tout ça fait 14 kilos, et il a appelé l'un et l'autre des deux livres « Apprendre et entreprendre ». Et je crois qu'après, il faut rajouter transmettre, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, la transmission de l'expérience que nous avons pu avoir. Mais j'ai pu remarquer aussi qu'à l'époque, j'avais quand même un petit peu l'Oxor. mais ça ne me gêne pas du tout, au contraire, je le revendique.
Mais bien sûr, vous aviez 17 ans, voilà,
exactement.
On est de là où on est.
Et il y a
une
chose aussi que je voudrais préciser, c'est qu'il y a deux athlètes qui sont nés à Oni, vous l'avez dit, Michel Jazzy et moi-même, mais également, et je l'ai vu hier, Gervais Martel.
Ah, bien sûr.
Qui est plus dans le football, le Racing Club de Lens.
Ancien président du Racing Club de Lens, évidemment. Voilà. Est-ce que vous vous voyez tous les deux avec Michel Jazzy? C'est un monsieur important pour vous. Il est toujours en vie, hein, Jazzy. Il a 83 ans.
C'est un peu mon...
Le grand frère.
Un peu mon grand frère en athlétisme. J'ai plusieurs grands frères, hein. J'avais Jean-Claude Boutier, qui malheureusement est disparu il y a quelques temps, et qui nous a causé énormément de peine. Michel Jazzy, parce que c'est un athlète et qu'il est né à Ouani, etc., etc. Bon, il y avait plein de choses, puis il m'a guidé dans ma carrière. Et puis le troisième, c'est Jean-Claude Killy, qui est un exemple, si vous voulez, à la fois sur ses victoires, sur la longévité de sa carrière, et puis sur sa façon d'être et d'appréhender les choses.
Sophie Camoun, vous êtes, vous, une ancienne championne de natation. Vous étiez au JO à Los Angeles en 84. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Qu'est-ce que vous devez à Guy Druth, Sophie Camoun?
Guy m'a énormément inspirée. En fait, j'avais seulement 9 ans quand il a été champion olympique à 76. Je crois que c'est un de mes tout premiers souvenirs de sport. Alors pourquoi je m'en souviens? Parce que j'ai grandi avec des parents qui s'intéressaient énormément au sport, et je me souviens que mon père, juste avant la finale olympique, pendant des jours et des jours, m'en avait parlé. Et comme tous les Français, je crois qu'il y avait une attente énorme autour de cette finale olympique.
À l'époque, on gagnait pas. On gagnait très peu.
On gagnait pas.
Et il y avait une chance avec Druth. Il y avait une chance d'avoir une médaille d'or.
Il concourait dans une discipline, le 110 mètres haies, tu me dis si je me trompe, mais dans laquelle les Français, enfin les Américains, avaient le monopole de la victoire depuis 1928, je crois.
Oui.
Donc voilà, il attaquait les Américains directement dans leur discipline. Effectivement, la France, à cette époque-là, ne gagnait pas beaucoup. Je crois que la France ne s'était même pas qualifiée en Coupe du Monde en 70 et en 74. Je crois qu'aux Jeux Olympiques de Munich en 72, la France était rentrée seulement avec 2 médailles d'or. Donc il y avait
vice-champion olympique, déjà, Guy Druth,
exactement.
Hein, en 72.
Et il y avait une médaille d'or, je crois, en voile et en cyclisme sur piste, Daniel Morellon.
Voilà.
Donc, Guy avait battu le record du monde l'année précédente. Donc, il y avait une attente, une pression énorme autour de cette finale du 110 mètres haies. Et même si tout le monde disait, l'opinion publique, tout le monde disait qu'il était favori de cette course, je crois que les spécialistes savaient qu'il y avait un jeune Cubain qui était en train de progresser énormément et qui était extrêmement dangereux pour Guy. Et arriver à gagner dans ce contexte-là, c'était tout simplement quelque chose d'extraordinaire, quoi.
C'était
et
une
je crois
course
que tout
de nuit.
S'en est rendu compte.
Donc vous l'avez pas vu, la course?
Non, j'avais pas eu le droit de la regarder parce qu'il était presque minuit en France.
Oui, c'était à Montréal.
Et pour tout vous dire, mon père m'avait demandé d'aller me coucher, mais il m'avait dit, je te promets, je te mets un petit mot que tu auras demain matin. matin au réveil avec le palmarès. Et j'ai encore gardé le petit mot à la maison. Il y a premier Drude, deuxième Casanas, troisième Davenport.
Incroyable.
Et je l'ai gardé
donc, au réveil, petite fille, vous
même
aviez
pas,
ça.
Même pas. Ah, je suis restée les yeux éveillés, éveillés, les yeux grands ouverts jusqu'à ce que mon père ouvre la porte de ma chambre.
Elle a fait semblant de dormir.
Exactement. Et j'ai allumé la lumière dès qu'il est sorti de ma chambre.
Évidemment. Marc Montréal, vous êtes vous journaliste à L'Équipe, spécialiste entre autres de l'athlétisme. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cette discipline, le 110 mètres haies? D'où ça vient? C'est quoi l'esprit de cette discipline? C'est quoi l'histoire du 110 mètres haies? À la fois, on le connaît, mais on le connaît pas. On sait pas trop.
L'histoire du 110 mètres haies, bon, comme l'a dit Sophie, c'est surtout une discipline qui a été dominée par les Américains très très longtemps. Hein. L'athlétisme s'est fait petit à petit. Il y avait la question de passer les obstacles qu'on a sur 110 mètres, sur 400 mètres haies, même le 3000 mètres steeple aussi. C'est une manière, bon, on saute, on court. On lance pas là sur le 110 mètres haies et c'est devenu une discipline très très importante pour nous Français parce que c'est une discipline hyper technique. C'est pas faire injure que dire que les disciplines techniques c'est réservé à certains pays, les pays européens, les pays américains. La Jamaïque aujourd'hui par rapport à la vitesse et en France on a eu très régulièrement de très très bons coureurs de 110 mètres haies. Et Guy a marqué son temps, son histoire, mais derrière on a eu des Caristan, on a eu des Doucouré. Aujourd'hui, hier à Wagny, il y avait Pascal Martino Lagarde qui est venu, qui est le champion d'Europe en titre. C'est une discipline vraiment française. Avec la perche qui est l'autre amour de Guy. Oui. Et si vous en parlez un jour avec Maurice Souvion, qui était l'entraîneur de Jean Galfion, il vous dira ouais, non. Quel gâchis qu'il n'ait pas fait de la perche.
Guy Drude, un mot sur ce sport. C'est un sport très particulier, le 110 mètres haies. C'est à la fois une course et un saut. C'est une course rapide. Tout c'est un sprint fait. Et un saut très technique. Pour le cerveau, ça ne doit pas être simple quand même. Comment vous vivez ça, vous? Vous viviez ça à l'époque?
D'abord, il faut le sentir, quoi. Il faut réagir tout de suite. En fait, ça a toujours été gagné par... Le seul non-américain avant moi qui ait gagné, c'était Atkinson, qui était un Africain du Sud, mais qui avait été élevé, qui s'entraînait aux États-Unis. Donc, pratiquement.
Vous êtes le premier Européen, d'ailleurs, champion olympique.
Années, dans les années 20, 24, 28. Non, 24, c'était à Paris, donc ça devait être en 28. Et en fait, c'est la hauteur du nez à mouton. 1m06 et qui tous les 10 yards, donc tous les 9m14, donc il y a c'est la régularité, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, les records ne sont pas très très importants. Enfin, la différence entre ce qui se passait à mon époque, à l'époque avant, et puis aujourd'hui, il y a que 25 centièmes, quoi. À peu près. Moi, mon meilleur temps, c'était 13,28. Le record du monde à mon époque, ça a été 13,24 avec Milburn. Moi, j'ai fait 13,00 manuel. Aujourd'hui, il court en manuel en à peu près 12,7-12,8. C'est 12,85, je crois, le record du monde.
Absolument.
Donc, c'est pas énorme. Avec mon temps, mon meilleur temps de l'hebdo, il y a presque 50 ans, je serais presque capable de rentrer encore en finale olympique. Donc, c'est simplement, les haies ne bougent pas. Il y a le vent, il y a la vitesse, il y a les adversaires, mais il faut que le rythme soit toujours le même. On a, étant donné la longueur du saut, il y a 9,14 m entre les haies, mais il y a 5,80 m à utiliser. Et entre 5,80 m, il faut faire 3 foulées. Ça fait 1,80 m à peu près la foulée. En gros,
okay.
Et une foulée normale pour un type de notre gabarit, pour des gens de mon gabarit, c'est entre 2m30, 2m40, 2m50. Donc vous voyez, il faut aller très très vite en faisant des petits pas.
Ouais, c'était juste pour situer la performance de Guy. Aujourd'hui, le meilleur français cette année, il est en 13,24.
Ah oui.
Et bon, Guy parlait aussi de la notion du vent.
Oui.
Le vent, bon, ça permet en athlétisme de dire, bon, un record est valable ou pas. Mais sur 110 mètres haies, c'est pas nécessairement pareil. J'ai en mémoire une discussion que j'avais eue avec Reynaldo Nehemia, qui était le premier homme sous les 13, et qui disait, ouais, moi avec le vent, j'aimais pas trop, parce que quand ça allait trop fort, trop vite, que j'arrivais sur les obstacles, j'avais peur.
Ouais, bien sûr, trop vite.
Je sais pas si c'était pareil pour toi, mais...
Ah bah oui, bien sûr.
Guy, c'est un sport quand même anglo-saxon, il faut le dire, qui est né en Angleterre au milieu du 19e siècle, qu'on dit inspiré des courses hippiques, qui est un sport universitaire à Oxford notamment. Il était au JO en 96, en 1896, un sport très ancien, olympique. J'ai lu, vous aviez un grand-père anglais.
Oui.
Mais c'est lié à quoi? À la Première Guerre mondiale? C'est quoi ce grand-père anglais? Et il paraît qu'il était très important pour vous, ce grand-père.
Ma mère est anglaise d'origine, donc, puisque ses deux parents étaient anglais, c'est mon mon grand-père a été gazé en 14 ou en 15 mm-hmm. à Ypres. Et il est donc resté, il a été ramené, il est resté à Calais, à l'hôpital. Et sa soignante, c'était Coralie Kenney, qui est devenue ma grand-mère.
D'accord.
Ils se sont aimés. Et donc, après la guerre, ils se sont mariés. Et puis voilà. Et ils sont restés en France jusqu'en 1947.
Un grand-père important pour vous, paraît-il.
Très important.
Ouais. Mais pour quelle raison ? Important.
Parce que il a toujours su
le fighting spirit.
Parce qu'il est le fighting spirit. Et puis c'était un homme qui avait une conception du sport exceptionnelle. C'est-à-dire que lui, il est entraîné. Et quand l'équipe perdait, il disait on a perdu. Mm-hmm. Et quand il gagnait, il disait ils ont gagné.
Oui.
Donc c'est un peu la différence quoi. Il savait toujours se mettre derrière, et il a sorti un footballeur qui a fait à l'époque était quand même assez connu, qui s'appelait Léon Glouvaki, qui a porté les couleurs du stade de Reims et de l'AS Monaco, et qui était un tandem reconnu avec Raymond Coppa à l'époque, en 58, à la Coupe du Monde, et c'est lui qui m'a offert mon premier survêtement.
Et tout, quand on regarde votre vie, on vient de parler du grand-père qui était donc soldat de la Première Guerre mondiale, ouais. Du côté anglais, quand on regarde votre vie d'athlète, elle est très liée au XXe siècle. Notamment, il y a eu un match, notamment France-URSS, oui. D'athlétisme, donc oui. La guerre froide, vous étiez voilà, oui, des adolescents, oui, oui, pour oui. Et puis il y a 72, Munich, vous êtes vice-champion olympique à Munich, mais Munich c'est aussi Septembre Noir, c'est aussi oui, 11 athlètes israéliens assassinés. Vous vous souvenez de ça? Quel souvenir vous avez de 72 à Munich, Guy Dru?
Oh ben, je l'ai vécu complètement, parce que l'attentat qui a eu lieu contre la délégation israélienne, ça s'est passé, je crois que c'était un jeudi, ou un mercredi, ou un jeudi, et c'était le jour de repos. Parce qu'à ce moment-là, la deuxième semaine, il y avait un jour de repos au milieu. Et on n'a pas eu le droit de sortir du...
Tu avais déjà couru, toi ?
Non, j'avais fini la demi-finale, le jour de repos, et le lendemain, c'était la finale. Mais comme il y a eu l'attentat, j'ai vécu tout l'attentat, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir
du village.
Du village. Mmh. Et donc j'étais dans une chambre d'hôtel voir les médecins pour me faire masser, vérifier avec les masseurs, etc., etc., qui devait être au troisième ou quatrième étage. Et dans cet hôtel, il y avait un côté qui donnait sur le village et l'autre côté sur les parkings. Et donc, j'ai tout vécu, c'est-à-dire qu'à un moment, on était à la fenêtre, on a entendu un peu de bruit, et à ce moment-là, on a vu les deux hélicoptères qui se posaient sur le parking, avec le bus qui est arrivé, avec des couvertures aux fenêtres, et j'étais à quoi ? À vol d'oiseau, à 30 mètres, quoi. Et à ce moment-là, tous les malheureux Israéliens qui, Kalachnikov dans le dos, qui étaient transportés entre le bus et les hélicoptères, et puis après, ils sont partis, et puis après, bon, bah, on connaît malheureusement la suite, mm-hmm. Et c'est mon ami Charles Guétry qui avait été, à l'époque, qui était à l'AFP, qui a été, parce qu'il traînait, et en sortant, et au moment où il a vu sortir un type en pleurs, qui était le patron, le maire du village, et qui lui a dit c'est dramatique, et ils ont un peu parlé, et c'est dramatique, et Charles à ce moment-là a passé un petit coup de fil à l'AFP en disant mais non, t'es, tu... et puis bon. Mmh. Et c'est comme ça que ça c'était.
Marc Antoliac.
Oui, parce que les premières informations à l'époque qui étaient sorties, c'était que les Israéliens étaient sains et saufs.
Étaient sains et saufs. Bien sûr. C'était faux.
Ce qui était faux, absolument. Puis il y a eu 11 athlètes assassinés, évidemment. 18h34 sur Inter, c'est le retour de l'orchestre emmené cette fois par Fouki, artiste québécois de Montréal, une ville chère au cœur de Guy Dru, forcément. Le titre joué positif, ainsi soit-il.
Yeah, j'suis positif, yeah, j'suis positif. Maman m'a dit dans la vie, sois pas négatif. So, j'suis positif, yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans la vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés, wow, wow. J'veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que j'travaille fort. Fais quoi de bien avant maman, wow, wow. On garde le smile. Pas juste pour la night, yeah. Faut mettre les efforts, yeah. J'm'échappe au Goliath, yeah. Et juste une profession, yeah. J'essaie d'être comme personne, yeah.
C'est pour ça que j'ai percé, yeah. Soupçon de percé, yeah. Pour une femme dans le cabanon, hey. First place au marathon. Pendant que tu fais des by wrong. Moi j'ai work hard, j'suis resté strong. Yeah, on se rafraîchit le brain. C'est le du bon pied matin. Rien à foutre des chiales. J'ai le talent, puis j'ai chance. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman m'a dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work my mi jour férié. Wouh, wouh. J'veux pas avoir de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Wouh, wouh. J'vois que c'est les coups pour work le rêve. Maintenant j'ai trouvé le boulot de rêve. Mes profs pensaient que j'étais à des rêves. Mais non, la zik est pas pour faire. C'est bien triste là, mais c'est pas comme un jeu. Des fois t'as pas toujours ce que tu veux. Fais-toi pour un film juste pour aller mieux. T'es pas Alexandre bienheureux. Il faut work out pour le pain. Faut toujours refaire le plein. Pour pouvoir racheter du temps. Pour recommencer demain. Up, bang, up, bang. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman m'a dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Wouh, wouh. J'veux pas avoir de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Wouh, wouh.
L'œil du tigre.
En 72 à Munich.
Nous retrouvons les adversaires de Dru, 210 mètres haies. Dru est à l'extérieur, il va faire la plus belle course de sa vie, enlever la médaille d'argent et apporter la seule satisfaction française en athlétisme.
Philippe Collin.
En revoyant la course au ralenti, on ne peut s'empêcher de rêver, de penser que si Dru était bien parti, il aurait pu inquiéter Milburn. Regardez, Dru est mal parti alors que Milburn, à la ligne 5 au milieu, est tout de suite en action. Dru rétablit la situation à la 5e et la 6e haie. Il passe Davenport à la corde, puis il à ses côtés, avant de venir dans la foulée de Milburn.
Sur France Inter.
Guy Druth, notre invité du soir, c'est un destin français. Fils d'un mineur du Pas-de-Calais, Guy Druth a trouvé un chemin de traverse sur les pistes du 110 mètres haie. Une école de la discipline pour devenir champion de France, champion d'Europe et champion olympique. Une cavale sociale, une réussite. Et puis une fois sa carrière terminée, l'athlète a poursuivi sa route vers d'autres horizons, là où ensuite, certains sprinteurs ont tenté de suivre sa foulée.
Il a déjà son slogan. Quand je me lance, je veux gagner. King Karl a aujourd'hui 49 ans, une carrière bien remplie. 9 titres olympiques, des images qui ont marqué des générations.
Mr. Carl Lewis.
Celui qui a remporté l'élection de l'athlète du XXe siècle s'attaque désormais à un autre suffrage, à un bastion républicain de l'état du New Jersey. Sport et politique, ils ne sont pas nombreux à avoir osé cette reconversion de l'autre côté de l'Atlantique. Mais en France, le mariage s'opère depuis des décennies. Le dernier sportif en date, David Douillet, élu député en octobre 2009. Ses prédécesseurs reconnaissent avoir eu quelques difficultés à se faire une place dans le monde politique. L'ancien ministre Guy Druth prévient l'ancien sprinteur. La politique, c'est un marathon.
C'est une course longue distance avec de multiples obstacles et on ne connaît pas toujours les obstacles. Et je sais qu'en France, les obstacles ne sont pas toujours placés par vos adversaires, mais de temps en temps aussi par vos amis. Donc voilà.
Je profite de cette évocation de Carl Lewis pour vous annoncer qu'il sera à ce micro, lui-même, le roi Carl, le dimanche 29 septembre à 18h dans l'œil du tigre, trois quarts d'heure d'entretien que nous avons réalisé vendredi dernier. Cette légende du XXe siècle, donc vous verrez, il est grandiose au micro. Ce sera donc diffusé le dimanche 29 septembre. Guy Druth, après votre carrière sportive, donc vous avez embrassé une carrière politique. Globalement, pour commencer, quel sentiment vous avez par rapport à cette seconde vie? Est-ce que ça vous a rempli? Est-ce que vous avez aujourd'hui une frustration? Ça n'a pas été simple, vous avez pris des coups en politique. Quel sentiment global vous avez aujourd'hui de cette carrière jusqu'à devenir ministre de Jacques Chirac des Sports?
Non, ça s'est fait naturellement. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai plusieurs pères. J'ai mon père organique, Jacques Dru, mon père sportif qui était Pierre Legrain, qui est celui qui m'a trouvé, qui m'a fait faire mes premiers pas sur la piste, et mon père politique qui est Jacques Chirac. Et J'ai toujours eu la volonté de pas rester les deux pieds dans le même sabot et de faire les choses. Et j'ai pensé à une époque qu'il était plus facile ou mieux de faire les choses de l'intérieur que de l'extérieur, plutôt que de toujours râler sur les renversés, etc.
Mais est-ce que vous avez choisi la politique ou est-ce que c'est elle qui vous a choisi ? J'ai cru lire qu'à la fin de votre carrière, vous n'étiez pas perdu, mais vous étiez en train de réfléchir.
Un peu, oui. Et que Chirac, j'étais un peu perdu.
Voilà, vous aviez l'air un peu perdu et que Chirac vous fait une proposition pour rebondir, donc vous y allez, et puis il y a la vie qui va avec, jusqu'à devenir ministre.
Tout à fait.
Mais en même temps, vous avez pris des coups, Guy, c'est-à-dire que vous avez été condamné dans une affaire compliquée de financement illégal du RPR, vous avez été gracié ensuite, bon, mais vous avez pris des coups en tant qu'homme. C'est pas le même métier que le sport, quoi.
Il n'y a pas que dans la politique que j'ai pris des coups, hein, parce qu'on prend aussi des coups dans la politique sportive.
J'imagine.
Oui, mais ça, bon, bah, c'est la formation, c'est l'expérience de l'homme. Et je me souviens très bien, au moment où vous disiez que j'étais perdu, c'est vrai que j'étais un peu paumé parce que quand les projecteurs s'éteignent, bon, il faut s'y faire, quoi. C'était difficile pour vous. C'est facile pour personne.
Qu'est-ce que ça veut dire, c'est difficile? Ça veut dire quoi concrètement pour vous?
Ça veut dire qu'on n'a plus les repères. Ça veut dire, c'est cette fameuse histoire avec le politique, on dit qu'il se rend compte qu'il n'est plus élu quand il s'assoit derrière la voiture, qu'il s'aperçoit qu'elle ne démarre pas, quoi, parce qu'il n'y a pas de chauffeur. Quoi. Mm-hmm. Là, c'est un peu pareil. Le téléphone sonne moins. Puis il y a l'âge qui fait aussi. Et puis on réagit pas de la même façon à 35-40 ans qu'on le fait à 25 ou 30 ans. Et ça, c'est l'expérience et c'est la vie. Et c'est vrai que Chirac, à ce moment-là, m'a passé un petit coup de fil et m'a invité à la mairie de Paris. Il m'a dit, j'en ai un peu marre de voir la truffe en l'air, là, t'es capable de faire autre chose que de sauter des barrières, même si tu le fais avec talent. Le sport, c'est important et j'ai besoin de quelqu'un aux côtés de moi qui s'en occupe. Voilà.
Marc Antoniak, vous voulez dire un mot?
Oui, juste pour préciser que cet engagement de Guy auprès de Jacques Chirac, ça a commencé alors que Guy était encore athlète.
Oui, bien sûr.
75.
Ça lui a valu d'ailleurs
quelques
sifflets sur une compétition.
Oui.
La première fois.
Je m'en rappelle bien.
Donc, pour résumer la situation, vous avez donc souscrit à l'UDR, qui est en gros l'ancêtre du RPR, en 75.
Qui est l'ancêtre des Républicains, etc.
Et donc, vous êtes en course et vous faites siffler, et donc vous faites un truc incroyable en 76, vous dédiez votre médaille olympique à 50% des Français, parce que les autres vous énervent. Donc là, vous étiez un peu grande gueule.
Ça, c'est une erreur. On peut aussi faire des erreurs.
Oui, bien sûr.
J'ai toujours regretté parce que j'ai reçu des courriers de gens très sympathiques qui me disaient, moi, je suis de gauche et votre médaille m'a fait plaisir.
Oui.
Non, c'était un peu pour réagir aussi à Casanas ou à Juan Torena qui, à l'époque, c'était Fidel Castro. Donc, ils brandissaient leur médaille, Fidel Castro. Ça m'énervait un peu.
À l'aune de l'époque, Guy, il y avait une liberté de parole un peu plus grande, peut-être. Voilà, aujourd'hui, plus personne ne pourrait dire un truc pareil, ou c'est une carrière foudroyée, quoi. Donc, vous n'êtes pas d'accord.
C'est leur problème.
Hein. Sophie Camoun.
Non, mais moi, je chapeau, parce que c'est vrai qu'il a été le premier à oser cette reconversion, du sport à la politique. Mm-hmm. Et Dieu sait si à l'époque ça devait pas être facile, parce que on était quand même encore dans une époque où, même si maintenant les choses ont évolué, où le sportif c'était un peu tout dans les muscles et rien dans la tête. Mm-hmm. Donc il fallait qu'il fasse ses preuves en politique, repartir de zéro. Mais je crois que ça met vraiment en exergue deux qualités de Guy. La première, c'est que quand il décide quelque chose, il va jusqu'au bout, au bout de ses idées, parfois envers et contre tout. Mm-hmm. Et il les assume. Il les assume totalement. On l'a vu en sport. Il a pris parfois des décisions qui étaient très fortes. Moi, je me souviens, on n'en a pas parlé, mais la décision, par exemple, de ne pas loger au village olympique. Je sais qu'à l'époque, ça avait été extrêmement décrié, mais il avait pris cette décision très forte. Il en a prise en politique aussi, et je crois que la deuxième qualité qu'on peut mettre en exergue, c'est sa fidélité. Sa fidélité en amitié, sa fidélité à Jacques Chirac, et même si ça n'a pas été facile pour lui, je crois que Guy, c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle en amitié, qui donne énormément, et quitte à se mettre parfois des gens à dos.
Sophie Camoun, aujourd'hui la ministre des Sports, elle est ancienne championne de natation, un peu comme vous, Roxana Maracineanu.
Elle était assise à cette table avec moi
il y a un an, on était tous ensemble.
On parlait des Allemandes de l'Est.
Absolument, Cornelia Ender, voilà. Est-ce que ça vous a tenté, vous, la politique, Sophie Camoun, en reconversion?
Alors, je vais vous faire une petite confidence, on m'a proposé d'être députée.
Ah.
Il y a 3 ou 4 ans, et d'ailleurs, j'avais passé un petit coup de fil à Guy.
Surtout, n'y va pas.
Pour qu'il me conseille sur le sujet, je ne vous dirai pas ce qu'il m'a répondu, mais en tout cas,
je vois sa tête.
Mais en tout cas, je n'y suis pas allée. Voilà.
vous ne vouliez pas. Mais en plus, ça vous intéresse quand même l'engagement citoyen. Vous êtes en train de lancer quelque chose, je crois que ça s'appelle Nageur et Citoyen.
Ouais, mais j'ai envie de rester totalement dans le sport. Mm-hmm. Et effectivement, j'ai lancé ce programme Nageur et Citoyen, là, plus pour la prévention de la noyade. Mais non. Très honnêtement, je n'ai pas suffisamment la fibre politique pour me lancer dans ce genre de carrière.
Et alors, allez-y, Guy.
Je réagis un petit peu sur le mot grande gueule, parce que c'est un peu vrai aussi.
Mais oui, vous étiez grande gueule quand même.
Peut-être un peu de temps s'il le faut. j'aimais pas les injustices, j'ai jamais aimé l'injustice. Mm-hmm. Et par exemple, je me souviens très bien que dans les années 73, au lendemain des Jeux d'Helsinki, j'étais le premier à fonder l'Association des athlètes français, mm-hmm. qui a été perçue par la fédération. À ce moment-là, c'était Robert Baupin, qui était un homme d'autorité que j'aime beaucoup, énormément, avait pris ça comme une volonté d'émancipation, comme la création d'un syndicat. C'était pas du tout ça. C'était simplement pour mettre en avant la formation, la présence et la parole des athlètes. De la même façon qu'en 76, bon, je trouvais ridicule cette dichotomie entre l'amateurisme et le professionnalisme, et donc j'ai dénoncé l'amateurisme marron. Peut-être un peu peut-être de façon un peu maladroite, ça m'a valu 4 ans
de suspension. J'ai revu plein d'images de l'époque, évidemment. Oui. Qu'est-ce que ça a changé, Guidru? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment... Non, mais changer, c'est charmant de revoir les images, mais on prend, en voyant ces images-là d'il y a 40 ans, on prend en pleine figure de voir combien les fabricants de chaussures ont pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'on parle d'argent dans l'athlétisme, très bien, les stars gagnent de l'argent, mais le statut, c'est compliqué. Il y a plein de gens qui doivent aujourd'hui, encore athlètes, avoir des compléments de revenus pour pouvoir vivre et faire la compétition. Ça vous inquiète, ça? Vous avez quel regard là-dessus?
C'est compliqué. Si on commence là-dessus, on en a pour un moment, et c'est une évolution à
voir.
Vous
êtes moins grande gueule aujourd'hui. Vous êtes moins grande gueule, du coup.
Non, c'est pas que je suis moins grande. Je suis un peu plus réfléchi quand même. Non, mais c'est un problème tellement important et difficile.
Je sais.
Ça nécessiterait quand même un vrai et long débat. Et j'aime pas avoir un débat avec moi-même parce que je suis sûr d'avoir toujours raison. mais ça rentre dans et ça n'est pas qu'en France,
c'est mondial. C'est
aussi la formation de l'individu et sa responsabilité propre qui intervient. Il y en a qui peuvent en vivre, il y en a d'autres qui peuvent moins en vivre. Ça dépend du sport qui est pratiqué. C'est plus facile d'être footballeur, tennisman que athlète ou cycliste, parce que les cyclistes, même les types qui gagnent le Tour de France, ils roulent pas sur l'or.
Oui, mais il y a aussi beaucoup d'argent dans l'athlétisme, mais on sent qu'il n'est pas vraiment redistribué comme il devrait peut-être, je ne sais pas. Peut-être mieux qu'avant. Sophie Camoun, est-ce que vous, à l'époque, vous étiez championne de natation, est-ce que vous deviez travailler à côté pour gagner votre vie, ou est-ce que vous avez...
On était totalement amateurs, c'est-à-dire que moi, de toute façon, j'avais des parents qui me disaient c'est pas la natation qui va te faire vivre, et effectivement, quand j'ai été finaliste aux Jeux Olympiques,
84,
j'ai eu 4000 francs à l'époque, ça m'avait permis de m'acheter mon premier chapi pour aller à la piscine, mais voilà, on ne vivait pas du tout. Je pense pas que Guy, qui à l'époque devait être en contrat avec Adidas, il me semble. Je pense pas que t'aies gagné des centaines de milliers de francs, peut-être quelques paires de chaussures supplémentaires.
C'était à centaines de milliers de francs dans l'année, quoi. Mm-hmm. Et ma préparation olympique de 1976, ça devait être 2500 francs, je crois.
Sophie Camoun, vous avez été aussi, vous l'êtes encore peut-être d'ailleurs, conseiller en communication de sportifs de haut niveau. C'était aussi une reconversion pour vous ces dernières années. Quand vous avez vu Guy Drut dans ces années comme ça, un peu impulsif, libre parole, ça c'est plus possible aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Je pense déjà, Guy, je crois que ce qu'il faut, si je peux me permettre de parler d'un point de vue un petit peu plus humain par rapport à Guy, c'est quelqu'un qui cache, je crois, une extrême gentillesse et sensibilité derrière cette apparence justement de grande gueule, de gros dur. J'en ai discuté récemment avec deux de ses filles, avec Elodie et avec Lucie, qui me disaient mais papa, il passe pour un gros dur, mais en vérité c'est un gros nounours qui est prêt à fondre en larmes à chaque fois qu'il y a une situation un petit peu sensible. Donc voilà, c'est vrai mais ça peut effectivement donner le sentiment d'une certaine arrogance.
C'est vrai que j'ai assisté un jour à côté d'un collègue, parce que je pouvais pas le marier, je n'étais pas maire de Paris ni maire d'arrondissement, et dans le 16e, le mariage de mon médecin, qui est un vrai ami personnel, qui s'appelle Alain Kchentowski. Alain, c'est l'un des frères, c'est Roland. Mon toubib, c'est Roland. Et donc le maire, qui était un copain du 16e, ou l'adjoint, m'a gentiment passé la parole à un moment. Et bah, au bout de trois mots, j'ai éclaté en sanglots, quoi. Donc j'ai réussi l'exploit de faire pleurer toute la salle.
C'est un émotif, ça se voit, oui, c'est un émotif, oui, c'est un grand émotif. Il nous reste 2 minutes 30, Guy Drut. Il y a aussi les perspectives, il y a la prospective, il y a l'avenir. Quand on est un champion olympique en 76,
l'avenir, il y a Paris 2024, l'avenir, c'est le CIO, l'avenir, c'est le CIO, et bien sûr, Paris 2024. Mm-hmm. Alors moi,
qu'est-ce que ça veut dire Paris 2024 pour Guy Drut?
Paris 2024. Alors d'abord, il y a eu la candidature où là, on a vraiment donné beaucoup parce que c'est une élection. Il fallait aller chercher les voix, persuader tous les votants, c'est-à-dire les membres du CIO, que on avait le meilleur projet et qu'il fallait voter pour lui. On a gagné le 17 septembre, donc vous voyez, c'est presque un anniversaire 2017 à Lima. Et puis maintenant, c'est le COJO, Comité d'organisation des Jeux Olympiques, COJO Paris 2024, qui est mené par Tony Estanguet. Et moi, je suis bien entendu totalement impliqué, mais moins présent parce que je suis également membre du CIO, et à ce titre, si vous voulez, je veille en quelque sorte, bon, il y a l'expression mettre l'église au milieu du village, mais là je dirais davantage que il faut faire attention à ce que les anneaux soient toujours au milieu du stade. Et parce que la mission et le but essentiel d'un comité d'organisation, c'est la livraison d'un événement. Et un événement comme les Jeux Olympiques, c'est énorme. C'est 42 championnats du monde sur 15 jours. Et ensuite, il y a les Jeux paralympiques. Et je crois que si on veut vraiment, il faut travailler vraiment avec les partenaires qui sont les parties prenantes, ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire la ville de Paris, la région Île-de-France, l'État, les communes, les collectivités, etc., etc. Et ça, il faut faire très attention. Alors Dieu merci, nous sommes aidés par deux types qui sont vraiment très très bien, deux hommes qui sont très très bien, qui sont Jean Castex, qui est délégué interministériel, et Nicolas Ferrand, qui est le patron de Solideo. Solideo, c'est société de livraison des Jeux Olympiques, des équipements, pardon, olympiques, mais le plus important, à mon sens, c'est la rigueur budgétaire.
Oui, la rigueur budgétaire, c'est important, mais aussi il y a l'esprit d'olympisme qu'il faut protéger. Olympique. Voyez, vous me faites tout un laïus qui est intéressant sur ce que c'est que le COJO, etc. Bon, mais je parlerai de l'argent encore, vous voyez, vous êtes votre grand cœur dont on parlait, voilà. Il faut aussi penser à ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, Paris, c'est la France, peut-être qu'on peut imaginer que des gens comme vous puissiez peut-être agir sur une redistribution, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour avoir une redistribution...
Je parle de financier, hein, je parle de budget, mais je parle de l'argent pour les autres.
On a fait déjà une chose qui a été un peu... Parce que quand les trains arrivent à l'heure, on n'en parle pas trop, mais sur le budget de candidature... On a pris moins, on a dépensé moins. Donc l'argent a été redistribué aux collectivités.
Très bien.
Et ce qui est la grande réussite des JO de Paris 2024, ce sera d'abord qu'on respecte les budgets, c'est-à-dire 3,8 milliards pour l'organisation et 3 milliards pour les implantations.
Enfin, on vous fait confiance. On vous fait confiance. Vous allez veiller à ça, Guy Drut.
C'est pas moi le grand patron. Et c'est pour ça que je regarde un petit peu ce qui se passe.
En tout cas, je vous remercie tous les trois d'être venus ce soir. C'était un vrai plaisir de vous écouter. Ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le retour du Give Me Five.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ce Give Me Five ce soir?
Eh bien, on commence avec un hommage, Colin. Un hommage à Chester Williams, joueur de rugby sud-africain décédé ce vendredi à l'âge de 49 ans. Voilà. Donc il travaillait comme coach de rugby à l'université du Cap Occidental et aurait été victime d'une crise cardiaque. Mais si on connaît si bien ce nom de Chester Williams, c'est parce que c'était le seul joueur de l'équipe victorieuse en finale...
Le seul joueur noir, c'est ça qui est important,
de l'équipe victorieuse en finale de la Coupe du Monde 1995, vous savez, contre les All Blacks néo-zélandais, après une prolongation mythique dans l'histoire à l'Ellis Park, puisque à l'époque, donc, seuls les Blancs avaient le droit de faire partie des Springboks pendant l'apartheid, voilà. Et surtout, Chester Williams, c'était l'un des personnages principaux du très beau film Invictus de Clint Eastwood, qui racontait la victoire de ses joueurs lors de la Coupe du Monde 95. Donc Clint Eastwood, le monde du rugby et l'Afrique du Sud sont en deuil, et nous aussi, évidemment. Alors revoyez Invictus en mémoire de Chester Williams.
Et j'en profite pour annoncer que dimanche prochain, nous recevons Serge Blanco, le gentleman du rugby français. La suite, Joy.
Un coup de gueule, Colin. Les footballeuses jamaïcaines refusent de jouer tant qu'elles ne sont pas payées. Bah, voilà. Ouf, je pourrais m'arrêter là, hein, en vrai. Première équipe des Caraïbes tout de même à avoir disputé une Coupe du Monde. Les joueuses de l'équipe nationale attendent toujours le versement d'une prime de plus de 100 000 euros.
Leur salaire.
Après leur salaire, hein, après leur mondial disputé en juin. Voilà, trois fois rien. Depuis cette semaine, enfin, elles se rebellent, martèlent le slogan « No pay, no play ». Donc voilà, on n'est pas payé, on ne joue pas. Et nous, on les soutient.
Et on soutient aussi un artiste, Joy, qui décore les abords du Stade de France.
Ouais, ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur, tout ça. On aime bien, c'est dans l'esprit aussi Paris 2024. Guatemala, tout à fait, un portraitiste qui use de peinture ou de pochoir, grâce à qui les supporters découvrent un Stade de France en ce moment coloré. Voilà, à la demande du consortium un Stade de France de la Plaine Commune qui regroupe toutes les villes de la Seine-Saint-Denis, l'artiste a habillé de 50 bornes de sécurisation, vous savez, autour de l'enceinte, aux couleurs d'autant de pays. Donc Guatemala s'est inspiré des drapeaux, des motifs traditionnels des nations pour égayer un peu voilà, les abords du stade et surprendre les passants. C'est rafraîchissant, puis il y a un truc marrant, c'est que de Guatemala, on ne sait pas grand-chose. Si ce n'est que c'est un street artiste un peu à la JR, voilà, on l'a croisé à Montpellier dans le 9-3. Tout ça est voilà, très excitant, ça me plaît beaucoup.
Très bien, c'est aux abords du Stade de France. On y reste, on y reste, Joy, pour la bévue de la semaine, hein,
ah,
je crois.
Ah bah oui, on a ri, hein. On en a entendu parler, mais on en a ri, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Petit couac hier, tout petit, lors du match éliminatoire opposant la France à l'Albanie. Alors les instances du football français, comme ça on ne cite personne, bam, ont vécu de longues minutes embarrassantes hier au Stade de France. Alors que l'équipe de France accueillait l'Albanie, les enceintes ont résonné au son de l'hymne d'Andorre.
Et oui.
Le prochain adversaire des hommes de Didier Deschamps, mardi. Mardi seulement, voilà. Et alors en essayant de se rattraper, comme si tout ça n'était pas assez, le speaker des Bleus se trompe à son tour.
Et, oui.
Et c'est presque ça moi qui me fait le plus marrer. Et dans la confusion du moment, donc en présence des excuses, se dit « Eh, nous allons jouer maintenant l'hymne arménien !»
Et oui.
Bien sûr, aux supporters d'Arménie, il s'emballe lui-même sans s'en rendre compte de son erreur, donc tout ça est très drôle. On finit par diffuser quand même l'hymne albanais, pardon, qu'on appelle l'hymne au drapeau, pour votre culture quand même, écoutez.
C'est donc l'hymne albanais que France Inter diffuse ce soir en dédommagement aux supporters albanais hier soir. Voilà
donc malaise, hein, fou rire, tout le monde s'excuse. Des erreurs de diffusion d'hymne, on vient d'en parler avec Guy Drut, lors de compétitions internationales, comme ça, ça arrive. C'est rarement bien grave, alors sauf peut-être moi celui qui m'avait un peu trauma en 2017, lorsqu'à l'occasion d'un match de Fed Cup, c'est la version nazie hein, de l'hymne allemand, on s'en souvient, qui avait été joué aux États-Unis. Là, honnêtement, il n'y avait vraiment pas de
courir. Non, on se rappelle des tennis women allemandes qui étaient là pour ce match et qui ont entendu l'hymne du Troisième Reich. Elles avaient une tête totalement décomposée, on comprend bien. Et pour finir, Joy, ton conseil culturel du jour.
Eh bien, on va prendre un livre cette semaine, Colin. Allez, bah, mon tour, on est comme ça, mon conseil culturel. C'est l'un des nombreux romans de la rentrée littéraire. Ça s'appelle « Murène » de Valentine Gobi, hein, qu'on ne présente plus, qui est apparu aux éditions Actes Sud. Alors, à l'origine du roman, Valentine Gobi le raconte elle-même. Il y a l'image du champion de natation Zhao Tao qui a jailli de l'eau aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016, hein, qui flotte en balise cardinale parmi les remous turquoises. Voilà, Camoun me regarde avec un sourire, elle voit tout à fait. L'auteur contemple l'athlète à la silhouette tronquée, son sourire vainqueur, vous voyez, sa beauté insolite. Alors autour, les gradins sont semi-vides, tout le monde, voilà, il y a cette minorité là qui regarde à peine le handisport. Et ce qu'il y a de génial dans ce roman, c'est que ce n'est pas ça en fait le vrai sujet du roman. Enfin pas uniquement, voilà, pas uniquement le handisport. Ce qui fait la beauté, la douceur, c'est comment un corps se modifie, s'apprivoise, se regarde, comment un corps vous dicte votre vie ou comment le sport, alors ça Gaudi, je pense qu'elle le dirait pas comme ça, mais moi j'y vais. Comment un corps en fait ça vous drive, voilà, oui. C'est ça Murène.
Murène de Valentine Gobi qui est apparu aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup Joy, à la semaine prochaine. Merci à Marco Mutel, ce soir Romanette évidemment comme d'habitude, assisté de Florent Layani. Merci beaucoup à Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. On se retrouve la semaine prochaine avec Serge Blanco. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'œil du tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.